Vous êtes sur Fréquence Mistral, il est 11h et vous allez assister à un nouveau numéro de Jean de Manosque. Pour présenter cette émission, François Malabave.
Oui, bonjour Camille, bonjour à tous. Quatrième numéro de Jean de Manosque, émission consacrée à Jean Giono et son œuvre. Au menu aujourd'hui, des invités qui évoqueront l'activité fournie autour de l'auteur de Colline, mais aussi deux personnes qui ont compté pour lui, Lucien Jacques et Serge Fioriot. Des livres et expositions sur ces deux personnages sont d'actualité et nous en parlerons avec Jackie Michel et André Lombard. Jacques Méni sera des nôtres, bien sûr, et nous détaillerons le programme des 10e rencontres Giono qui auront lieu à Manosque du 5 au 10 août. Enfin, nous entendrons la voix de Giono dans le dernier épisode des Deux Frères. Bienvenue à Manosque, bienvenue sur Fréquence Mistral et bienvenue dans Jean de Manosque. Et on commence tout de suite avec notre ami président des amis de Jean Giono, Jacques Méni, qui nous a rejoint. Bonjour Jacques.
Bonjour François.
Une émission qui est consacrée à deux personnages qui font partie de la galaxie de Jean Giono.
Oui, même la galaxie très proche.
Oui. Avec Lucien Jacques et Serge Fioriot. Mm-hmm. Nous allons détailler tout cela avec nos collègues. Et puis on vous retrouve aussi en fin d'émission pour parler des rencontres Giono qui auront lieu dans la chaleur du mois d'août.
Oui, on espère sans les orages.
Oui, on l'espère aussi parce qu'il y a plusieurs choses qui sont prévues en plein air. Et j'ai le plaisir d'accueillir André Lombard tout de suite. Bonjour André.
Bonjour François. Bonjour
Il faut que tu te rapproches. Je rappelle à nos amis auditeurs, on a une grande complicité avec André puisqu'on a usé nos fonds de culotte, surtout les miens, sur les bancs des collèges et lycées manosquins, et donc c'est impossible pour moi de vous voyez André, et même des fois de dire André parce que souvent c'est Dédé. André, tu es le légataire spirituel de Serge Fioriot qui nous a quitté il y a déjà quelques années. Qui c'était exactement pour toi, Serge?
Ben Serge, c'est quelqu'un que j'ai rencontré par sa peinture. C'est un peintre, bien sûr, tout le monde le sait. Bon, moi, je l'ai rencontré par sa peinture, comme beaucoup de monde, très jeune, à 10 ans, en 1965, dans une exposition de mon village natal. Bon, et à partir de cette peinture, j'ai plus lâché le fil, quoi. Et jusqu'à son décès, on est resté liés, très proches, voilà. On a été solidaire, on a été fraternel, enfin voilà. Donc aujourd'hui qu'il est décédé, je me sens un peu et beaucoup celui qui peut partager ce que Serge m'a donné sur 40 ans aussi, et puis partager aussi ses archives qui, par un blog que j'ai créé, par des publications, ne restent pas sur des étagères ou dans des tiroirs, et donc peuvent être connues et partagées de tous, quoi, parce que je crois que ça en vaut la peine. Aujourd'hui, les peintres, beaucoup de gens peignent, mais peu sont vraiment peintres, à mon avis, donc des gens comme ça valent la peine d'être mis en avant, quoi.
Serge Fioriot, qui de son vivant avait connu le plaisir d'avoir une publication qui lui était consacrée, Serge Fioriot, qui était paru aux éditions, oui, du Poivre d'Âne, et depuis que Serge nous a quittés, eh bien tu t'agites, toi, pour justement forger et garder cette mémoire, mais avec notamment, sûr, Pour saluer Fioriot, oui, qui est paru il y a 2 ans, oui, et cette fois-ci, alors là, on est carrément, on prend une empreinte un petit peu papale, oui, Abemus Fioriot, dis-tu.
Oui, ça c'est aussi un jeu de mots, c'est aussi une devinette, et voilà, la réponse à la devinette, c'est dans le bouquin. Je parle dans ce livre un peu de ces rencontres de Deltay, de Giono, bien sûr, dans sa jeunesse. Parce qu'après, je crois qu'ils ont plus grand rapport quand même, quoi qu'on en dise, de Lanza del Vasto. Je parle de son œuvre, de sa peinture. C'est beaucoup moins biographique que le premier bouquin, mais ça, quand je pense, enfin je l'ai fait pour ça, je pense que ça éclaire quand même bien des facettes de son, de sa peinture et aussi de son personnage, quoi. Voilà.
Donc, il y a aussi quelques reproductions et des reproductions inédites.
Oui, il y a les cahiers du livre étaient de 16, donc cette fois, donc il y a 16 reproductions. Dont deux photos, une photo de Serge dans son atelier quand il est arrivé à Montjustin dans les années en 47 par là, les années 50, et une photo là, de Cartier-Bresson qui est inédite puisque voilà, c'est Cartier-Bresson lui a fait quand il est arrivé lui-même à Montjustin. Ça devait être dans les années 70 par là.
Avec
75 par là.
Avec le sourire magnifique de Serge sur la photo. On a tous en mémoire, ceux qui l'ont croisé.
Une joie communicative.
Oui, tout à fait. André, c'est un livre qui t'a, j'allais dire, qui t'a demandé beaucoup d'investissement pour.
Non, pas du tout, parce que moi, quand j'ai eu terminé la rédaction du premier, j'ai continué à écrire, parce que j'avais encore des choses à sortir, à dire. Donc j'avais ça dans l'ordi. Finalement, j'écris toujours là sur Serge. Je continue sur un blog. Je peux en donner l'adresse là. Peut-être certains ça les intéressera. C'est sergefuriot.canalblog.com. Donc j'écris toujours sur Serge. Et puis il s'est trouvé que Jackie, là, qui est avec nous aujourd'hui, Jackie Michel, a pris l'initiative d'une exposition Furiot dans la médiathèque Lucien Jacques à Gréoux. Et donc je me suis dit, c'est l'occasion de sortir ces textes de l'ordi, d'en faire un livre, et l'expo de Gréoux fera la vitrine idéale. Voilà, donc c'est une chose à entraîner une autre, enfin, et sans cesse.
L'exposition qui est visible à Gréoux-les-Bains, il y a plusieurs tableaux qui sont exposés.
Oui, il y a 25 tableaux environ. Enfin, oui, il y en a deux dans des vitrines, trois. Enfin, il y en a à peu près 25. Donc ce sont des œuvres d'époques différentes. Les plus anciens sont de pendant la guerre, de 1942. Ce sont deux gouaches peintes au vallon quand Serge était dans le Tarn-et-Garonne, dans une ferme où les Furiot vivaient en paysans et aussi donnaient main forte à la résistance. Là, ils ont beaucoup aidé. Ils ont recueilli beaucoup d'enfants juifs. Ils ont beaucoup aidé de résistants qui allaient faire des coups à la gare de Toulouse ou ailleurs, qui se repliaient chez eux. Et là, ils ont sauvé de nombreuses vies, vraiment. Et donc, ces deux tableaux datent de cette époque-là. Et il y a des toiles jusqu'à peu avant le décès de Serge. Quoi. Il y a des toiles de 2007, 2006. Donc, très différentes. Elles n'ont jamais été exposées non plus. Et sur des sujets aussi très différents. Donc des marchés, des natures mortes, des paysages, les diseuses de cartes. Enfin, il y a des choses, des scènes de foire. Il y a une scène de foire. Enfin, des choses, je crois, qui sont capables de faire redécouvrir Serge, l'œuvre de Serge à ceux qui la connaissent déjà. Parce que il y a des clichés, quoi. Un Furiot, souvent dans l'esprit des gens, c'est un beau paysage, bien gentil, bien joyeux. Mais ce n'est pas que ça. Et pas que ça du tout, même il y a toutes sortes d'autres facettes, voilà. Donc je pense que cette expo peut permettre de découvrir, pour ceux qui connaissent pas évidemment, et de redécouvrir aussi, quoi, de se refaire une autre idée. C'est pas non plus, comment dire, pour présenter un soi-disant autre Serge, parce que c'est toujours le même Serge. Il est là à Gréoux avec des toiles différentes, mais toujours tel qu'en lui-même.
Selon toi, André, qu'est-ce qui fait la grosse différence entre Serge Furiot et les autres peintres? Qu'est-ce qui fait son attrait particulier?
Je crois que ça vient aussi... alors, son attrait particulier, c'est un grand mystère. Et puis, c'est le grand mystère qui circule dans ses toiles, quoi. Il y a aussi une espèce de besoin de paradis. C'est quelque chose de très, très attirant, hein, quand même. Même les toiles les plus dramatiques de Serge sont encore très, très attirantes. Il y a, par exemple, à Gréoux, c'est un grand tableau de Lure... Qui est très austère, si on veut, mais c'est d'un fantastique qui quand même attire, quoi. Et donc, ce qui peut le différencier des autres peintres, c'est d'abord, il y en a d'autres, mais enfin, qu'il est autodidacte et qu'il est resté. Il n'a appris la peinture que par lui-même, vraiment. Et ça, c'est. Et puis, je sais pas, il est d'une famille d'esprit, je pense, quoi. Il y a des familles d'esprit dans la peinture, comme il y en a dans la littérature ou la musique. Et cette famille d'esprit fait qu'il puise à des sources originales, quoi.
Jacques Méni, Jean Giono, qui était le cousin de Serge Furiot, lui avait conseillé de ne pas suivre de cours et de rester autodidacte et frais et naturel.
Oui, bah ça c'était le grand dada de Giono qui refusait l'intellectualisme, mais dont il est évident que Giono était un très grand intellectuel et qu'avoir sa bibliothèque,
lui-même n'a appris à écrire que par lui-même.
Mais c'était aussi un autodidacte, voilà. Donc cette culture qui se fait soi-même, c'était vraiment un effet. C'était une des bases de sa propre formation. Donc il ne pouvait encourager Serge débutant qu'à continuer dans cette voie-là. Et en effet, c'est vrai que il y a des phrases connues. Enfin, quand il rencontre le peintre suisse Rémillet, il dit surtout méfie-toi.
Et il avait raison.
Serge le racontait souvent d'ailleurs. Oui. Méfie-toi, il est trop intellectuel, ne pense pas, écrit pas. Mais non, ce qui est beaucoup plus amusant aussi, c'est l'anecdote qu'il raconte dans le film que j'avais fait sur lui, de Martel se promenant avec lui et le présentant comme le Saint François d'Assise de la peinture. Oui. C'est vrai qu'il y a un côté, on retrouve quand même une tradition italienne chez lui.
Oui,
quand même.
C'est une peinture faite avec les moyennes du bord.
Oui, oui.
Et Serge disait. L'ignorance en peinture n'est pas un handicap, mais la possibilité de découverte originale. Et ça, c'est la meilleure école. Ça,
c'est vrai, par exemple, quand.
C'est pareil pour Lucien Jacques, d'ailleurs.
Oui, mais je pense souvent à ça à propos des écrivains qui font du cinéma, par exemple. Il est certain qu'il y a beaucoup d'écrivains qui ont pris une caméra un jour. Et contrairement à ceux qui font du cinéma aujourd'hui, qui font du cinéma finalement normal, mais ces écrivains des années 50, 60 et même avant étaient avant tout des expérimentateurs. Et comme ils connaissaient pas toutes les ruses de la technique, ça leur permettait d'inventer des choses tout à fait étonnantes, des trouvailles extraordinaires. Et souvent, ils étaient avant-gardistes, même sans le vouloir. Donc, et c'était aussi chez Giono, il a appris le cinéma dans les salles de cinéma. Je veux dire, en allant voir des films. Et souvent, il a eu des idées d'une grande, grande originalité qui anticipait même sur... c'est pareil pour les peintres aussi.
C'était l'époque où les écrivains étaient parfois présidents du Festival de Cannes.
Oui.
Tout cela est bien loin derrière nous.
Mais ça ne veut pas dire, parce qu'on est autodidacte, en tout cas dans le cas de Giono, c'est vrai, qu'on ne devient pas un écrivain savant. Giono est un écrivain savant, incontestablement.
Les autodidactes ne sont pas des ignares.
Donc il n'y a pas besoin de suivre des cursus comme ça. Ce qui faisait dire à notre ami Pierre Citron qu'un professeur de lettres ne pouvait pas être un bon écrivain, ce qui est faux. On a des preuves quand même qu'il y a des professeurs qui savent aussi écrire. Il y en aura un cet été aux rencontres, notre ami Jean-Yves Lorichès, dont le dernier livre est absolument formidable, qui est un roman. Il n'y a pas de cloisonnement à faire, mais ce qui est certain, c'est que on peut devenir un peintre savant ou un écrivain savant à partir d'une culture autodidacte. Et je veux dire, c'est souvent l'originalité, la singularité de l'autodidacte est plus grande que celle qui. Il y a des écrivains qui écrivent bien parce qu'ils ont appris à écrire. Il y a des écrivains qui écrivent beaucoup mieux. Et comme disait Paul Claudel, le véritable écrivain, c'est celui qui malmène la langue française.
Il faut avoir quelque chose à dire.
Oui, bien sûr. Ou à montrer.
Oui. André Abemus Furiot est disponible à quel endroit? C'est alors, paru à la Carde éditeur.
Oui, la Carde éditeur, c'est moi, c'est une auto-édition de toute façon. Mais bon, c'est, voilà, pour la couverture, donc ce bouquin est disponible à Apt, à la Maison de la Presse, à Fort-Calquier, la Maison de la Presse. Chez Jackie Perani, le bouquiniste, qu'il vend sur les marchés, sur tous les marchés de la région. Et puis chez moi, on peut me le commander directement au hameau de Saint-Laurent, à Viens, 84 750 Viens, ou par mail nolombard@gmail.com. Voilà.
Et évidemment, rappelle aussi ton blog, le blog que tu consacres.
Alors le blog, l'adresse du blog, c'est Serge Furiot en un seul mot, en petites lettres, sergefuriot.canalblog.com. Tous les jours, pas tous les jours, non, mais enfin tous les trois jours, il y a une publication. Je me sers des archives de Serge, j'en tire une, au petit bonheur la chance, un tableau, une reproduction, une phrase, un document, quelque chose, une photo qu'il a. Et à partir de là, j'écris un petit commentaire, enfin, qui est une piste vers d'autres choses encore. Et voilà. Donc, je l'ai créé en 2014, en janvier 2014. Ça fonctionne très bien. Il y a à peu près une trentaine, 30, 40, c'est allé jusqu'à 90 accès par jour, quoi. Voilà, je pense que ça répond à un besoin. En tout cas, ça a recréé un lien qui s'était perdu un peu au décès de Serge. Serge rassemblait beaucoup de monde chez lui. Il y a eu beaucoup de passages. Et tout d'un coup, tout le monde s'était un peu dispersé, ne se rencontrait plus, ne se communiquait plus. Et je me rends compte que le blog recrée ce lien.
Même si ce sont des rencontres virtuelles, c'est quand même, elles ont le mérite d'exister.
Oui, mais on se retrouve aussi en dehors ensuite, des fois dans la vie, quoi.
C'est bien, c'est une bonne chose. Merci André, tu restes avec
comme
nous.
Comme à l'Expo, par exemple.
Comme à l'Expo à Gréoux-les-Bains, magnifique
donc, qui est
transition.
Qui dure jusqu'au 12 septembre. Et là, le 4 août, là j'ai fait une visite guidée de l'Expo le 7 juillet. Le 4 août, je vais en refaire une autre.
Pas dans la nuit, hein. Attention, la nuit du 4 août, c'est spécial.
Et le 2 septembre, encore une visite guidée. La première a eu du succès. Je pense que les autres en auront aussi, quoi.
4 août et 2 septembre pour ces visites. Tu nous rappelleras tout ça, on les annoncera évidemment. Et si ça se passe à Gréoux-les-Bains, c'est parce qu'il y a un personnage de Gréoux qui a apporté son petit grain de sel à cette opération. C'est bien sûr notre ami Jackie Michel. Bonjour Jackie.
Bonjour.
Jackie, président de l'association des amis de Lucien Jacques. Lucien Jacques, c'est le nom aussi de la médiathèque de Gréoux-les-Bains, et pour cause, puisque Lucien Jacques a été très lié à la famille Michel et aussi à Gréoux-les-Bains, et c'était bien sûr un personnage ô combien important dans le cheminement de Jean Giono.
Oui, donc ça fait maintenant une quinzaine d'années que je travaille sur Lucien Jacques, l'association a 11 ans, et nous l'avons créée, bon, par hasard, mais sur décision de Lucien Denoux et de Sylvie, Genot, qui m'ont un peu poussé à créer cette association, et on se rend compte que 12 ans après, ça fonctionne, même si on a des difficultés, on n'a évidemment pas l'audience de nos amis, des amis de Giono, mais on essaie de rendre compte de l'œuvre protéiforme de Lucien Jacques, et donc on vient de publier le deuxième livre d'art, après le livre d'aquarelle en 2011, qui a quand même eu du succès.
C'est un livre magnifique.
Qui a quand même eu du succès, donc nous présentons ses dessins et gravures. Alors, c'est un bouquin lourd et avec beaucoup de reproductions, puisqu'il y a 217, je crois, œuvres dans le livre. Évidemment, nous avons fait une sélection, parce que Lucien Jacques, bien qu'il soit, comme disaient certains, un peu va-nu-pied, dilettante, on a retrouvé à ce jour 469 dessins, 297 gravures.
Donc il y a beaucoup de documents inédits en fait.
Ah oui, tous pratiquement. Tous. On avait publié quelques-uns dans nos bulletins, notre bulletin annuel. Ensuite, évidemment, on a repris quelques dessins emblématiques, en particulier les portraits de Giono, qui à l'époque ont servi de frontispice à des livres comme Noé, Un roi sans divertissement, etc. Mais il y a des portraits de Giono inédits. Donc il est constitué en deux parties, dessins puis gravures. Et dans chaque partie, il y a portraits, bestiaires, natures mortes, paysages. Et au milieu, il y a deux cahiers particuliers dédié à ses deux grands amours de sa vie, Isadora Duncan et Jean Giono. Donc, on a séparé, et en particulier Isadora Duncan, on a actuellement 75 à peu près œuvres de Lucien Jacques que Lucien Jacques a réalisées, et on a mis ce qui est très intéressant, les esquisses qu'il a réalisées sur ses genoux en la regardant danser. Donc,
ce sont de véritables documents, en fait, des documents de travail.
C'est assez riche. Et pour finir sur Isadora, je vous lis un extrait d'une lettre qu'il adresse à Guillou le 27 septembre 1927, quelques jours après la mort d'Isadora. Vous savez qu'elle a été étranglée par son écharpe sur la Bugatti de Naman. Toutes les portes qui se sont ouvertes pour moi, la poésie, la peinture, tout cela vient d'elle. Cela peut paraître curieux pour une danseuse, mais ce n'était pas une danseuse seulement, mais une prédicante, une sorte de prêcheuse par la danse. Elle enseignait, elle transmettait un message. Je devais rejoindre Isadora sitôt ma besogne terminée ici, il était à Marseille, et l'aider à donner une version française de ses souvenirs. Mais la mort est venue, et je demeure désemparé, non à cause de ce projet, mais de la perte de cet ami vénéré, qui était aussi un peu un génie. Je lui devrais d'être le peu que je suis. Et bon...
C'est joli comme épitaphe, voilà, particulier.
Mais bon, à cette époque, il y a une lettre à Giono aussi sur la mort d'Isadora. Giono n'avait pas connu Isadora. Et donc voilà, alors c'est surtout un livre d'images. Il y a peu de texte. Donc moi, on a été trois à produire du texte. Donc moi, j'ai fait l'introduction et puis une mini-biographie. Ceux qui veulent une biographie plus détaillée, il faudra qu'ils achètent le livre d'aquarelle s'ils ne l'ont pas.
Et ils ne le regretteront pas, parce qu'il y a de très très belles reproductions et de très très beaux tableaux.
Ensuite, sur Giono, c'est notre ami Michel Duchesny qui a fait un texte sur l'amitié Lucien-Jacques-Jean Giono. Et le troisième, c'est notre technicien peinture, on pourrait dire, c'est Roger Saille, qui a fait en particulier une étude sur les dessins d'Isadora Duncan.
Les dessins qui avaient déjà été exposés à Manosque, et à Gréou, me semble-t-il.
Oui.
Et donc, vous avez complété avec des œuvres que vous avez retrouvées,
oui.
C'est ça ?
Oui, oui.
Donc, c'est une mémoire un petit peu comme ce que fait Jacques Meny avec Jean Giono, mais où déjà la documentation est très importante. C'est une mémoire, les 11 années que vous passez à la tête de cette association ont permis de fournir quand même à la fois une iconographie et puis des connaissances sur ce beau,
oui,
incroyable,
oui,
qu'est Lucien Jacques.
Et
on découvre encore.
Ah oui, j'ai reçu avant-hier par mail une aquarelle. Quelqu'un qui veut vendre, donc une dame qui m'a dit mes grands-parents avaient cette aquarelle, donc qui voulait savoir la cote, elle est très belle, c'est certainement les beaux en Provence, datée, en fait je la daterai entre 30 et 40, et donc j'ai recontacté ces gens-là pour leur demander le nom des grands-parents, parce que c'est peut-être des contadouriens ou des relations de Lucien. Lucien offrait beaucoup de choses, beaucoup d'aquarelles, ce qui a porté tort à sa cote et à sa notoriété à l'époque, mais il était comme ça.
Il s'en fichait.
Quand il était ami avec quelqu'un,
voilà,
il offrait une aquarelle, et c'était que ses amis qui étaient assez nantis qui donnaient le retour quand il voyait qu'il avait des difficultés, qu'il n'arrivait pas à joindre les deux bouts, un ministre aux États-Unis ou un médecin de Nice ou de Lausanne, je te commande deux aquarelles, et il payait pour qu'il puisse vivre 3 mois tranquille.
Une certaine forme de mécénat. Hein,
voilà, si on veut, parce que les autres mécénats, Giono et Lucien, étaient beaucoup reçus, quand ils en avaient envie, dans plusieurs châteaux de nobles de notre région, de Villeneuve à Châteaufort,
le château Rousset, Saint-Pourtin,
le château Rousset,
les Castellanes, les Forbins à la Barbère,
les Forbins à la Verdière, etc. Moi, j'y suis allé avec eux. Donc, ils étaient beaucoup reçus parce que chez ces gens-là, donc, on organisait des, et c'était bien d'avoir des artistes.
D'avoir le Goncourt qui était
voilà.
Là.
Voilà. Donc, actuellement, on en a 1300 œuvres de Lucien. Toutes choses confondues, mais je vous dis, on en trouvera beaucoup. Rien qu'à Manosque, je connais 3-4 personnes qui en ont plusieurs, et qui, pour l'instant, depuis 2006 et la grande expo qu'on avait fait, on n'a jamais réussi à obtenir qu'on ait au moins les photos. Bon, c'est comme ça.
Il faut insister, Jackie. De notre antenne pour dire que si vous avez des peintures ou des aquarelles ou des dessins, des croquis qui vous semblent être signés de Lucien Jacques, n'hésitez pas, vous appelez Jackie et il viendra.
Oui, et on garde toute. À toute discrétion.
Évidemment, évidemment, mais il ne faut pas laisser ces chefs-d'œuvre qui sont magnifiques dormir dans un coin. Il faut en faire profiter une association qui est dynamique et qui œuvre pour la mémoire de ce peintre, qui n'est pas uniquement un peintre, qui est aussi un poète, qui est aussi un écrivain.
Notre intention, après ce livre dessin et gravure, parce que les huiles, tapisseries, fresques, on n'a pas assez matière, disons, pour sortir quelque chose de très bien. Donc, par contre, on va certainement sortir l'anthologie poétique, parce qu'il y a 160, à peu près 160 poèmes qui ont été édités. Ils sont introuvables. Le dernier édité, c'était le tombeau du berger du Centre Giono et d'Alpes de Lumière, illustré par Luc Gerbier. Il est épuisé. Donc, on a réédité un livre de poèmes de guerre l'an dernier, parce qu'on nous le demandait. Donc, on va certainement éditer l'anthologie poétique complète, donc avec les 160 poèmes, plus pas mal d'inédits qui n'ont jamais été publiés.
À surveiller avec beaucoup de curiosité, tout ça.
Donc, c'est notre prochain, mais bon... On a besoin d'être aidé. Je vois la souscription n'a pas tellement bien marché. Pourtant, le livre à 32 euros pour ce que
c'est. C'est un très beau livre en plus. C'est produit par les éditions à façon qu'on salue.
Nous, on l'a fait à prix coûtant pour nos souscripteurs. Le but étant pas de faire gagner des sous, mais de faire connaître Lucien Jacques. Donc, on a tiré à 800 exemplaires. Donc, on a eu. Très peu de nos adhérents, 81 je crois, c'est à peu près la moitié des gens à jour, et ensuite en tout 170 en souscription.
Et il va y avoir les rencontres journaux cet été où il va y avoir du monde qui va passer
littéraire,
et des personnes qui connaissent Lucien Jacques.
On espère que les amateurs de journaux...
Où est-ce qu'il est disponible, Jackie, cet ouvrage?
Pour l'instant, on n'en a pas encore trop diffusé, parce qu'il faut qu'on négocie avec les libraires par rapport au pourcentage.
Aux marges, voilà. Oui.
Donc, pour l'instant, il est au titre de librairie de Manosque, et il est à Gréoux, c'est tout.
Poivre d'Anne, Petit Pois, et puis à la médiathèque également, à Gréoux.
À la médiathèque, on ne va pas.
Ah non,
à Gréoux, à la librairie.
À la librairie.
Et donc j'ai fait des mails aux librairies habituées à nous prendre les bulletins pour leur proposer de ne pas nous prendre 40% ou 30%.
Oui, oui, oui.
Donc, mais de toute façon, en allant sur notre site Lucien Jacques, on a les coordonnées et on peut évidemment le commander.
Les coordonnées du site aussi également.
Je le connais pas par cœur, c'est...
Mais si on tape Lucien Jacques, on doit pouvoir...
Si on tape Lucien Jacques, il apparaît en premier.
Sans problème.
Voilà.
Merci beaucoup, Jackie Michel.
Merci
bon été à...
Merci à toi de nous avoir reçus.
Toute l'équipe, c'est un bonheur pour moi de parler de ce personnage fascinant qui est Lucien Jacques, que l'on découvre chaque fois un peu plus grâce au travail qui est fourni par Jackie Michel et ses amis. Et c'est une très bonne chose. en plateau, vous êtes bien sur Fréquence Mistral et c'est le 44e numéro de Jean de Manosque, l'émission consacrée à Jean Giono, et c'est la partie qui est absolument incroyable dans notre émission, c'est que tout d'un coup, grâce à la magie de la technique, nous faisons revivre Jean Giono. C'est tout simplement la voix de Giono, Jacques Méni.
Oui, là, c'est le troisième et dernier épisode de notre feuilleton qui s'appelle Les Deux Frères, qui sont tirés des propos et récits enregistrés en octobre 1954 à Roquefort-la-Bédoule par Marguerite Taos, par Taos Amrouche, donc où Giono en beaucoup moins en roue libre que ça n'en a l'air, parce qu'il avait quand même bien préparé ses entretiens, ses récits plutôt, nous donne une nouvelle version, revisite en quelque sorte, de Cavalier de l'Orage, et en donne une nouvelle version orale, avec un certain nombre de différences, évidemment, avec le livre tel qu'on le connaît. Et là, c'est la fin donc de cette histoire d'amour tragique entre deux frères qui vont finir par s'entretuer. Voilà.
Écoutons la voix de Giono.
Oui, quand cette volonté de posséder la force physique ou morale s'empare d'un homme, elle en fait aussitôt un jaloux. Ce qui se passait entre les deux frères n'est pas autre chose qu'une histoire d'amour. Hubert aimait mon cadet et l'aimait de telle façon qu'il ne désirait rien d'autre que le bonheur de ce frère. Mon cadet, lui, désirait au contraire une partie de ce qui faisait la séduction d'Hubert. Et cette séduction, c'était sa force. Là, nous l'expliquons un peu. Moi, lorsque j'étais avec la bijoute, évidemment, je ne me posais pas toutes ces questions. Mais Hubert non plus, quand il a jeté son frère à terre et qu'il a gagné cette lutte, ne s'est pas lui non plus posé de grandes questions. Un peu de temps après, les choses étaient comme avant entre les deux frères. Ils allaient de nouveau en balade, on ne parlait plus de lutte entre eux, ils allaient aux foires comme d'habitude, et ils passèrent encore un magnifique printemps et un magnifique été. Ce n'est qu'à la fin de l'été que les choses commencèrent un peu à se gâter. Le petit hameau qu'habite la bijoute, quoique minuscule, perdu au milieu des forêts de chênes verts dont je vous ai parlé au début, et malgré tout, un hameau comportant une vingtaine d'habitants un peu dispersés à travers les bois, à travers dans des petites fermes ou dans des petites bergeries. Vers la fin de l'été, quand les moissons des petits champs de blé qu'ils possèdent sont finies, ils ont l'habitude, généralement, de faire une sorte de fête d'été, de fête dans laquelle ils commémorent la fin de leurs travaux. Cette année-là, la fête eut lieu, comme d'habitude, dans une clairière un peu éloignée, et après le repas, les gens qui se trouvaient là avec eux décidèrent, Hubert, à faire une démonstration de sa force. Il fit d'abord les petites manigances qu'il avait l'habitude de faire, c'est-à-dire il releva le rouleau à blé, il me porta avec un joug de bœuf d'énormes pierres suspendues, puis finalement il lutta avec un bûcheron qui était du hameau voisin. Et il arriva à le vaincre d'une façon assez rapide. C'est à ce moment-là que mon cadet s'avança vers lui et lui dit « Tu as quand même roulé cet homme avec trop de facilité, peut-être serais-tu embarrassé un peu plus profondément si tu t'occupais de moi ou si c'était avec moi que tu luttes. » Hubert lui dit « Mais enfin, voyons, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi ? Je t'ai déjà battu. »
Et en public.
Déjà battu. Oui, et en public. Je ne crois pas que ça ait eu une très grande importance. Le débat se passait très intérieurement entre les deux frères. Je ne crois pas que le fait d'avoir été défié en public ait pu avoir la moindre des importances pour mon cadet. Mais vous allez voir que tout à l'heure, cela aura beaucoup d'importance pour Hubert. Donc, mon cadet lui dit, de toute façon, si tu veux que nous luttions maintenant, l'occasion est belle, nous allons le faire devant tout le monde. Hubert ne pouvait guère refuser. Il avait, de notre côté, fait tout ce qu'il fallait pour arranger les choses pendant la période dans laquelle ils étaient allés se balader après la première bataille. Il était loin de repenser encore à cette chose-là. Il avait complètement oublié que mon cadet pouvait avoir le désir de posséder la force physique. Et d'ailleurs, lui, il trouvait ce désir un tantinet audacieux, ou même il ne le comprenait pas du tout. Il ne voyait pas de quelle façon ce frère pouvait véritablement obtenir quelque chose de tout à fait valable en renversant en renversant ce personnage qu'il était lui. Et qui
invincible,
était...
quoi, au fond.
Oui, et en plus, il ne pensait pas trop à être invincible, il pensait surtout que sa force, telle qu'il l'avait exercée jusqu'à ce moment-là, n'était que son appareil de séduction pour son frère.
Oui, d'accord.
Il aimait lutter devant lui. Il aimait renverser les lutteurs professionnels qu'on lui opposait. Il aimait être devant son frère, le vainqueur et le monsieur qui gagne.
Et il était joyeux, au fond, pour lui aussi bien.
Bien sûr. Oui. C'est exactement ce qu'il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas pourquoi mon cadet voulait à ce moment-là prendre sa place, oui. Puisque cette force était un appareil de séduction pour lui, mon cadet. Alors c'était une sorte de narcissisme, nous disons ça, nous autres.
Oui.
C'était une sorte de narcissisme qu'il ne pouvait pas comprendre. Pourquoi mon cadet voulait-il à la fois être l'objet aimé et l'objet aimant?
Ah oui, évidemment.
Alors, il ne pouvait pas le comprendre, mais là, devant l'assemblée, il n'essaya pas de reculer. Il lui dit, mon vieux, puisque tu veux que nous luttions, luttons. Il lui dit d'ailleurs d'un air un peu fâché. Et il se dit en lui-même, cette fois, il faut vraiment que je lui frotte un peu les oreilles. Je vais très rapidement lui faire une espèce de ces petites passes que m'a appris Clé des Cœurs lorsque je lui luttais avec lui. Je vais lui faire de la lutte véritablement gréco-romaine, comme il disait. Alors, cette lutte véritablement gréco-romaine s'engage par conséquent devant un public très attentif et devant d'ailleurs la mère, la bijoute qui regardait ça, qui elle nous voyait simplement s'exercer cette force qui avait toujours été la sienne, qui était celle de la famille, celle de sa légende et qu'elle trouvait tout à fait naturelle. Lorsque Hubert commença à lutter avec mon cadet, il s'aperçut que les choses n'étaient pas les mêmes et que très probablement mon cadet s'était exercé en silence et secrètement avant de recommencer à lui jeter un défi.
Il était beaucoup plus fort, beaucoup plus prêt. En fait.
Il le trouva beaucoup plus fort, il le trouva beaucoup plus décidé dans la lutte, et je ne sais pas jusqu'à quel point au début il ne l'admira pas un peu, et s'il ne s'amusa pas un peu à faire que mon cadet puisse briller devant l'auditoire devant lequel il se battait. Mais rapidement, il s'aperçut que mon cadet était plus fort que lui, parce que plus jeune, tout simplement.
Oh, c'est là que c'est dramatique.
Et parce que plus jeune, mon cadet avait 16 ans de moins que lui. Hubert, à force de vivre, s'était usé. L'autre était tout jeune et était maintenant celui qui était le plus fort de la famille. Et au milieu d'une grande stupéfaction de tout le monde, c'est mon cadet qui mit Hubert par terre et lui fit toucher les deux épaules. Non seulement il lui fit toucher les deux épaules, mais dans sa violence de jeunesse et dans son amour pour la force conquise, il appuya de telle sorte que la défaite d'Hubert était véritablement, cette fois-là, devant tout le monde, définitive.
Mais il a humilié alors là.
Et oui, c'est là qu'en effet, l'humiliation a sa petite histoire. Hubert a été humilié et Hubert s'est retiré chez lui après cette lutte-là, sans vouloir recommencer la lutte ni avec personne, ni même avec son frère, avec mon cadet. Au cours de l'automne qui suivit, on ne vit pas beaucoup Hubert. On ne vit pas non plus beaucoup mon cadet qui ne crânait pas quand même.
Il était honteux, quoi.
Il n'était pas honteux. Il s'apercevait que quelque chose de nouveau s'était produit entre son frère et lui. Qu'un nouveau sentiment était en train, un nouveau sentiment assez, assez curieux et dangereux était en train de naître.
Au fond, ils étaient deux adversaires à partir de ce moment-là.
Ils étaient devenus deux adversaires à partir du moment où mon cadet avait désiré posséder la force physique de son frère aîné. Les choses se passaient, continuèrent avec assez de calme jusque vers le commencement de l'hiver. Et un jour d'hiver, une matinée d'hiver, mon cadet alla chercher de la litière pour les chevaux. Il était parti vers les 10 heures du matin et vers le soir, il n'était pas rentré. On attendit encore un peu jusqu'à la nuit avant de commencer les recherches. Et on le trouva sur la litière de feuilles qu'il était allé chercher, éventré d'un coup de serpe. Tout de suite, on pensa à un de ces crimes de fous qui ont lieu comme ça dans les solitudes, mais on s'aperçut que Hubert n'était pas rentré à la maison. Et le lendemain, il fallut se rendre à l'évidence, c'était très certainement Hubert qui avait tué son frère.
Qui n'avait pas pu accepter cette défaite.
je crois que c'est moins la défaite que le fait d'être mis dans un état d'infériorité vis-à-vis de ce qu'il aimait.
Et par l'être qu'il aimait le plus également.
Par l'être qu'il aimait le plus et qui avait à la fois détruit son pouvoir de séduction et détruit cette faculté d'être aimé. Car
c'est beau, ça.
Il n'y a pas seulement la faculté d'aimer, il faut aussi que l'être qu'on aime ait la faculté d'être aimé. Et celui-là l'avait perdu en désirant précisément posséder la force physique que possédait son frère et qui était toute sa séduction. Alors, naturellement, les gendarmes s'en mêlèrent, naturellement, on vint regarder un peu de près toute cette histoire, et on fit, finalement, on organisa une battue à travers les solitudes dans lesquelles on pouvait imaginer que Hubert s'était réfugié. Ces solitudes, je voudrais vous en donner une petite idée avant de pouvoir vous raconter ce qui s'est passé, qui est d'ailleurs maintenant très court à dire. Ce sont des solitudes à la fois désertes et dépouillées. Il n'y a pas un seul arbre, et les terres vont dans cette façon nue, montant jusque près du ciel, sans jamais montrer un visage plus serein que cette espèce de visage de bête solitaire, de poil de renard que peut avoir la montagne à ce moment-là. Au milieu de cette montagne se trouve une sorte de vallon qu'on appelle le bol de silence. Silence, S-I-L-A-N-C-E. D'ailleurs, ce mot-là se trouve sur les cartes Michelin, ça n'est pas un mot mystérieux. Il paraît un peu mystérieux en arrivant au milieu de cette histoire, mais c'est simplement un lieu-dit où se trouvait une ferme qui s'appelait Silence. Probablement parce qu'il y avait un propriétaire qui s'appelait Monsieur Silence, avec un A. Le bol est une espèce de combe dans laquelle, qui a peut-être un kilomètre de tour, et 50 ou 60 mètres de dénivellation. C'est une espèce de petit nid dans lequel, au printemps et à l'automne, viennent se réfugier des oiseaux, et où, l'hiver, dorment parfois ces grands aigles noirs qu'on voit se lever au crépuscule et qui suivent les troupeaux de moutons qu'on rentre au pâturage. C'est là que, finalement, on trouva Hubert, mort.
Au crépuscule, je crois, m'avez-vous dit.
Oh oui, on trouva Hubert, c'était vers le soir, on trouva Hubert mort. Mais ce qui était beaucoup plus pour moi intéressant, c'est qu'on trouva Hubert mort d'inanition. Or, il portait sous son bras, et son cadavre avait encore sous son bras, une énorme miche de pain, et il avait dans sa bouche une bouchée de pain non mâchée. Au fond, il était mort par manque d'appétit de vivre. Il avait essayé de manger, il ne pouvait plus manger parce qu'il avait tué ce qu'il aimait. Et qu'ayant tué ce qu'il aimait, il ne lui restait plus qu'à mourir.
Et il s'est laissé mourir, en somme.
Il a été obligé de mourir. C'est beaucoup plus beau. Car s'il s'était... Je ne crois pas qu'Hubert ait été un personnage capable de se laisser mourir. Peut-être même Hubert aurait-il eu, s'il avait vécu et s'il avait pu réussir, par exemple, à échapper à la justice, s'il avait pu se cacher et disparaître, il aurait peut-être pu prendre sur lui la force de vivre malgré la mort de Moncadet et malgré l'assassinat au cours duquel il l'avait détruit. Non, c'était beaucoup plus profond et beaucoup plus important, c'est que c'est son amour même qui l'a tué. C'est qu'au moment où il est allé dans une ferme, on l'a su par la suite, demander une miche de pain et que la fermière effrayée la lui a donnée, il est parti de nouveau dans sa solitude avec ce pain et avec l'envie de manger. Et il a mordu dans la miche. Mais quand le pain a été dans sa bouche, il n'a plus eu la force physique ou la volonté de le manger et de vivre. Il avait la nourriture elle-même s'est refusée à sa bouche et c'est par une sorte presque de malédiction divine qu'il a disparu. Remarquez que tout ce que je vous ai raconté, c'est une histoire que je ne connaissais pas. Quand petit garçon, j'allais chez madame, chez la bijoute, chercher mon bol de lait qu'elle m'a donné pour mes 4 heures. Mais je voyais que cette femme était véritablement une sorte d'image du désespoir. Quelquefois, elle chantonnait un peu, malgré tout, des choses assez lugubres, une espèce de chant assez lugubre, qui ressemblait moins à un chant qu'à une sorte de gémissement modulé. Quelquefois, Elle me prenait par la main et elle me disait, allons voir un peu, est-ce que tu réussis à devenir le petit berger ? Je disais, non, je ne réussis pas très bien, d'ailleurs, je ne serai pas berger. Moi, j'avais pour Massot, qui me menait, une très grande admiration, et le fait de devenir comme lui me paraissait être une chose parfaitement impossible à faire. Et je me souviens que quelquefois, elle s'arrêtait, elle regardait le paysage, et elle me disait, en regardant à la fois un endroit où il y avait des chênes et des bouleaux, elle me disait, j'ai eu deux fils qui étaient un peu comme ces arbres. Le chêne, c'était naturellement dans son esprit
Hubert,
et l'autre, c'était mon cadet.
Retour en plateau, nos invités Jacky Michel et André Lombard nous ont quittés, mais Jacques Ménie, lui, est resté, et pour cause, puisque Jacques, il faut parler des rencontres journaux de cet été.
Oui, les 10e rencontres journaux, depuis que j'ai rebaptisé en 2006 les journées journaux, qui étaient des journées associatives, amicales, en rencontres, et des rencontres qui, en 10 éditions, donc ont gagné, en quelque sorte, la forme et le statut d'un véritable festival. Et je sais que j'ai fait un bilan du nombre d'invités ou de comédiens ou d'écrivains qui sont venus au cours des dernières années. Je dois dire que c'est assez, même moi, pour moi, c'est assez impressionnant. Je crois que les musiciens aussi, je veux dire, c'est plus d'une centaine de personnes différentes, que s'agisse de différents artistes, qui sont passés aux rencontres journaux, qui était encore deux jours à l'origine et qui maintenant passe à 5 jours, puisqu'on commence par un concert à la Fondation Carzou par le duo Ambivalence, très original et excellent duo piano à queue accordéon. Le 5 août, le mercredi 5 août, les rencontres elles-mêmes avec leur alternance de conférences, de projections de films, de lectures et de spectacles, commençant le jeudi, les deux jours forts étant le jeudi et le vendredi, jeudi 6 et vendredi 7 et samedi 8. Donc nous aurons cette année tout un bouquet de autour des 5 sens. Hein. On sait l'importance que les sens et la sensualité ont chez Giono. Je sais que je suis un sensuel, écrit-il dans Jean le Bleu, cette sensualité qui fait que tous ces sens sont en éveil en même temps, très souvent. Il est un peu comme ce personnage, son dernier personnage, qui dans l'Iris de Suse, qui est un bandit, un brigand en fuite, et qui est poursuivi par ses anciens complices, qui l'a piqué le magot et qui essaye de remettre la main sur lui. Et donc il est là et il est au milieu de la nuit, et Giono écrit tous ses sens étaient en éveil. Mais chez Giono, c'est toute sa vie qu'il a eu tous ses sens en éveil. Évidemment, le sens majeur pour nous tous, pour lui aussi, c'est la vue. Bien sûr, mais c'est un sens un peu particulier chez lui, la vue, parce que chez lui il y a beaucoup de malades de la vue, que ce soit beaucoup d'aveugles, bien sûr, de personnages aveugles qui ont un statut assez particulier dans son œuvre, et que ce soit aussi tous ces personnages qui tout d'un coup sont confrontés à ce qu'on peut appeler la perte de vue, non pas au sens où ils deviennent aveugles, mais au sens où il n'y a plus rien à voir dans le paysage, dans l'espace. Que ce soit le brouillard, la neige, la lumière aveuglante du soleil au début du Hussard sur le toit. Et tout ça fait basculer le monde dans une espèce de gouffre. Et les individus doivent affronter ce gouffre. Alors la vue est importante pour jouir, bien sûr. Parce que ce qui est important chez Giono, c'est de jouir d'abord avec ses sens. Ensuite, grâce à son génie et à son art d'écrivain, il va se servir de ses sensations dans son écriture. Mais il y a les deux choses qui courent sans arrêt. C'est être en contact avec le monde, le connaître, en jouir, et ensuite le transformer en œuvre d'art. Et il a une très belle image dans Les Vraies Richesses, où il fait dialoguer Œdipe, un aveugle, avec sa fille Antigone, qui symbolise l'intelligence. Et il parle des cinq sens comme de cinq fenêtres ouvertes sur le monde. Et en courant d'une fenêtre à l'autre, c'est comme ça qu'on peut avoir la vue la plus complète du monde. Et donc chez lui, l'odorat est très important, le toucher, l'ouïe, les notations de bruit, et je ne parle pas de la musique, qui évidemment, on sait chez Giono, essentielle, mais les bruits. Il y a un personnage, c'est dans Promenade de la Mort, qui est un châtelain, là-bas, dans la Drôme, au château d'Olan. Il rentre tous les soirs à la même heure pour entendre les bruits du château quand la servante ferme les portes, allume le feu dans la cheminée, etc. Et Giono dit, le bruit était son bon compagnon. Bon, il y a la gourmandise. Giono était gourmand, on le sait, et il n'y a pas de plus grand bonheur sur Terre que la gourmandise. Bon, il écrit ça pour un texte pour le Club des 100, qui est un club de gastronomes, bien sûr, mais enfin, il était gourmand. Et donc, voilà, on va, en quelque sorte, c'est une idée qu'on avait avec Sylvie Giono depuis longtemps, célébrer les cinq sens chez Giono.
Alors c'est une très bonne idée, Jacques, mais en même temps avec des illustrations humaines particulières, puisqu'il y aura par exemple des comédiens et des comédiens de talent qui sont Philippe Gérard et puis Didier Sandre. Il y a aussi des photographes qui vont être là, qui vont apporter leur grain de sel. Je pense à Hans Sylvester, qui est un immense photographe et qui doit un petit peu le début de sa carrière à Jean Giono. Il nous racontera ça prochainement, Hans, sur notre antenne. Il y a également le nez des parfums Hermès, Jean-Claude Elena,
oui.
Et puis la musique, vous en avez parlé tout à l'heure, des musiciens magnifiques. Et tout ça n'empêche pas non plus les manifestations à caractère strictement littéraire et qui font le fond quand même des rencontres Giono. Hein.
Mm-hmm. Ah bah, c'est-à-dire que là, on conjugue, c'est le principe maintenant des rencontres, telles qu'elles se sont élaborées au cours de ces 10 ans, c'est d'arriver à faire se répondre différentes techniques artistiques ou intellectuelles pour pouvoir développer le sujet, décliner le sujet, déployer un éventail autour du sujet. Alors éventail, il y aura un film par exemple très très beau qui s'appelle La nuit qu'on suppose, qui sera projeté dans la journée le jeudi, je crois, le jeudi 6. La nuit qu'on suppose, c'est une formule du grand écrivain argentin Borges, qui était aveugle. La vie de l'aveugle n'est pas la nuit qu'on suppose, hein, a-t-il dit, et c'est un film qui essaye de nous faire comprendre comment les aveugles travaillent avec leur sens et comment ils créent avec leur sens leur univers et comment ils sont en contact, ils ne perdent pas le contact avec l'univers. Donc ça nous interroge aussi sur nous, notre relation à nos propres sens. Et puis évidemment il y a des lectures concerts. Alors il y a deux lectures concerts particulièrement importantes avec deux immenses comédiens, dont bien sûr Didier Sand, qui est maintenant d'ailleurs pensionnaire à la Comédie Française, qui est vraiment, je crois, le comédien emblématique que j'attendais depuis longtemps pour lire Giono, une des voix les plus extraordinaires du théâtre français, qu'on connaît parce qu'il a fait du cinéma aussi, de la télévision, et puis il a joué dans des spectacles inoubliables comme l'intégrale du Soulier de Satin, monté par Antoine Vitez en 1987, où il jouait le rôle principal. Et puis un autre comédien, son ami d'ailleurs, Didier, qui est Philippe Girard, qu'on connaît mieux ici, puisque c'est la troisième fois même qu'il vient à Manosque pour dire des textes de Giono, et qui est Philippe Girard, qui actuellement, au moment même où nous parlons, donc joue le rôle du roi Lear, le rôle titre du roi Lear, dans la mise en scène d'Olivier Py à la cour d'honneur du Festival d'Avignon. Je l'ai vu d'ailleurs il y a 48 heures jouer ce rôle. Dans ce spectacle très très controversé, mais que moi j'ai trouvé très beau.
C'est bien que des spectacles soient un peu controversés, que ça remue un petit peu les tas de gens,
et
les gens réagissent.
Et on aura aussi une autre forme, ce sera dans la matinée du samedi, avec notre ami Philippe Lardot, qu'on a déjà reçu ici aussi. J'ai tenté une chose, c'est de faire une lecture concert, mais concert de bruit. C'est un texte qui s'appelle Compagnie des bruits, et qui n'est pas joué par la Compagnie des bruits, comme j'ai lu. C'est le titre. Et donc, il va y avoir un jeune compositeur électro-acousticien qui est en train de concevoir toute une bande-son qui va être diffusée en rapport avec les textes, mais sans être illustrative, où donc on va essayer de plonger l'auditeur, spectateur, dans l'univers, un univers sonore, les orages, la pluie, les pas dans la rue, les grincements de porte, enfin tout ce qui évoque bien sûr les textes de Giono. Alors ce qui est tout à fait passionnant aussi chez Giono, c'est la façon dont il arrive sur une action, ou sur un temps très court, sur quelques phrases, sur un mini paragraphe, à mettre en scène et en jeu aux trois, parfois quatre sens à la fois. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, un petit passage que j'aime beaucoup dans Les Grands Chemins. Et vous savez, le héros des Grands Chemins, c'est un trimardeur qui se loue comme ça de village en village. Ça se passe un peu après la guerre, dans les années 48-50. Et donc là, ça se passe dans le dévolui, plus ou moins. Et bon, il parle d'une chose qui est très banale, c'est casser du bois. Alors, il casse du bois. Je n'ai de repos que lorsque je fends du bois à la hache, la relever au-dessus de ma tête et l'abattre de toutes mes forces sur les bûches qui craquent et éclatent me fait du bien. Je ne m'arrêterai plus, je ne sens pas la fatigue. Le bruit des coups et du bois fendu me plaît. Le cœur ouvert des bûches est beau à voir et c'est agréable de tripoter la raide vive des éclats. Là, on a eu le son, la vue et le toucher. Là, sur un geste quotidien, hein, casser du bois. Mmh. Et tout d'un coup, on voit comment les sensations, là, donnent tout à fait. Et la sensation, c'est aussi, au sens où Giono l'emploie, le divertissement. Et le divertissement, ça s'adresse, c'est un spectacle. Et le spectacle, c'est aussi la vue. Il y a une phrase de Giono qui dit « Voir la vie n'a pas d'autre sens que ça », même s'il met en scène, bien sûr, tous les autres sens. Donc, il y aura des concerts, notre traditionnelle promenade musicale, des conférences sur les peintres, par notre ami Michel Duchny, dont on a parlé tout à l'heure, à propos de Lucien Jacques, et Hans Sylvester, qui sera le témoin vivant, qui viendra conclure une conférence sur le rapport de Giono avec les photographes et la photographie. Tout ça, c'est pour l'œil. Donc, pour l'odorat, nous aurons une lecture des sens, et je terminerai peut-être là-dessus, entre Jean-Claude Elena et Didier Sand, qui sont très amis et qui ont déjà donné une lecture de ce type à la Comédie Française, au Studio Théâtre. C'est-à-dire que là, ce sera uniquement des textes de Giono qui seront lus par Didier Sand, sur lequel Jean-Claude Elena réagira en tant qu'homme de parfum, homme de l'odorat. Jean-Claude Hénard, qui connaît très très bien l'œuvre de Giono, puisqu'il a dédié son parfum cuir d'ange chez Hermès l'année dernière à Giono. Cuir d'ange est une expression qui vient de Jean le Bleu. Et nous retrouverons Jean-Claude Hénard aussi au cours d'une grande table ronde, qui précédera notre prochaine émission dans les Jardins du Paraïs, où là, il nous parlera vraiment de son métier, et il nous fera des démonstrations, il fera passer des odeurs au public, et donc nous aurons aussi des techniciens des sens d'aujourd'hui qui nous parleront de leur métier et de leur relation avec les sens dans leur travail et leur création.
À ne pas manquer donc les 10e rencontre Giono avec, vous l'avez dit, la clôture qui devient traditionnelle, clôture radiophonique dans les jardins du Paraïs à Manosque en direct, Fréquence Mistral. Ce sera donc le numéro 45 de Jean de Manosque en direct du Paraïs. Ce sera le lundi 10 août, très exactement. Merci encore Jacques, et puis prenez une bonne dose d'énergie pour ces belles rencontres qui s'annoncent, les rencontres Giono du 6 au 10 août, c'est à Manosque. Voilà, c'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver bien sûr sur le site internet de la radio, www.fréquencemistral.com, ainsi que les autres émissions précédentes, Jean de Manosque, une émission qui, eh bien, tout simplement, qui fait vivre l'œuvre de Jean Giono. Merci aussi à Camille qui a assuré la régie, et à très bientôt donc dans les Jardins du Paraïs le 10 août. À bientôt Jacques.
À bientôt François, merci.